Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elles s'attablent ».
Elles s'attablent.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elles s'attablent, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Elle s'attable. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison rouge qui n'est pas adossée à la colline, mais qui est quand même au sud de Paris, dans une espèce de petite impasse magique. Cette maison date, je pense, de la fin du 19e siècle. Il y a un petit jardin avec des agrumes et des bananiers. Et lorsqu'on rentre, on est dans une maison donc 19e avec des grands plafonds. On se croirait projeté à la campagne avec des plans de travail à l'ancienne, un comptoir en bois, une cuisinière où quelque chose mijote pour l'instant. Et s'y cache le territoire d'Angèle Ferrumacht, la personne qui a sans doute réussi à rendre le végétal ultra sexy en France. Angèle Ferrumacht, c'est la créatrice de la guinguette d'Angèle qui, depuis maintenant 8 ans, enchante tous ceux qui aiment le végétal, mais aussi les autres. Et aujourd'hui, elle nous accueille pour cet épisode du podcast. Bonjour Angèle.
Bonjour Danielle.
Elle s'attable.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous.
Mais alors avec grand plaisir, cette présentation me fait beaucoup de joie.
Alors j'ai hésité avec la Betty Boop du poireau, mais voilà, je me suis dit que le végétal sexy, c'était déjà pas mal. Alors cette maison est un lieu un peu incroyable, on a l'impression d'être tout à coup transporté absolument ailleurs. C'est une maison qui a une histoire familiale, je crois.
Oui, c'est une maison qui a une grande histoire familiale parce que, en fait, au départ, dans cette cour, donc rue Daguerre, qui est une rue déjà de marché toute la semaine, donc très agréable à vivre, dans cette cour, en fait, mon arrière-grand-père a fait une imprimerie pour que ces artistes puissent imprimer des lithographies, des œuvres, etc., et qu'ils puissent avoir la liberté de jouir de toutes les machines qui étaient assez modernes à l'époque. Et donc c'était très relié à la galerie MAG, qui est rue du Bac, et à la fondation MAG, qui est donc
très connue dans le sud de la France.
France, à Saint-Paul. Et aujourd'hui, donc ça marche encore. Et en fait, ma famille m'a invitée à prendre de plus en plus d'espace. Je suis espaceophage, je sais pas comment on dit, je grignote. Et donc là, on va s'agrandir encore plus et aller dans l'imprimerie. Et d'ailleurs, nos bureaux seront dans l'ancien atelier de Miro. Donc c'est le genre de choses qui nous fait...
C'est un très beau patronage.
Ça nous fait grand plaisir.
Donc c'est une maison ici qui est une maison comme une maison de campagne dans laquelle vous développez, vous créez, vous imaginez.
Exactement. C'est très important pour moi. En fait, on parle beaucoup de ce qu'on met dans notre assiette, de l'importance évidemment des producteurs, de magnifier les produits, de leur qualité, etc. Et ça, c'est devenu maintenant presque une évidence. Mais pour moi, pour aller encore plus loin, il est aussi crucial de prendre soin de comment les gens le cuisinent et qui sont ces gens et comment ils dans quel état émotionnel ils le font. Mais donc là, on est dans un moment un peu crucial où tout est remis en question. Et dans la cuisine particulièrement, parce que moi, j'ai vraiment inventé ma façon de faire, puisque je n'ai pas du tout une formation, j'allais dire professionnelle, mais... C'est exactement ça. J'ai jamais fait de grande école de cuisine. J'ai aucune vocation à être un grand chef, etc. Mais par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment changer les habitudes des gens chez eux et aussi dans les cuisines, faire passer des messages que l'éthique, en fait, c'est bien au-delà de l'aliment.
Angèle Ferreux, Magde, lorsque j'ai préparé cet entretien, car je l'ai préparé, je me suis rendu compte que peut-être une des lignes directrices de votre histoire, c'était la liberté. Et que vous deviez cette très grande liberté, liberté de penser, liberté d'agir, liberté de refuser peut-être les cases à la française, à vos parents et à une enfance assez particulière. Racontez-nous.
Bah oui, merci d'avoir mis ce mot auquel je n'aurais pas pensé directement pour moi. Mais en fait, oui, maintenant que vous me le dites, c'est tout à fait la ligne directrice de ma vie, en fait, de mon enfance qui était très libre à la campagne. On était dans le sud de la France, au-dessus de Grasse, dans un endroit complètement préservé, parce que je pense que ma mère était très bohème par rapport à son milieu, sa famille, etc. et avait vraiment envie que ses enfants aient un contact avec la nature réelle, quoi. Donc on était plus que libre, puisqu'on était tout nus, on n'avait pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école. Et en fait, on était très loin des conventions. Donc déjà très tôt, j'ai compris que au début c'était une tare, c'était très désagréable en fait adolescente d'être différente. J'avais juste envie d'être
de ressembler à tout le monde.
Ah, oui, j'en rêvais d'être. Donc je me rendais pas compte que c'était une chance du tout à l'époque. Pour moi, c'était la honte, quoi. Et en fait, ce que mes parents ont semé en moi petite, ça n'a pas arrêté de grandir et évidemment ça conditionne aujourd'hui mes envies, mes désirs. Ça fait de moi qui suis, donc mes voyages et puis l'envie de créer un univers autour de la cuisine, de la santé, des médecines traditionnelles, du respect de l'humain, de la nourriture, de la terre, de tout ça.
Vous dites qu'un de vos voyages marquants, fondateurs, ça a été la Californie. C'était la Californie du début des années 2000, j'imagine.
Exactement.
Et que vous y êtes allé pour passer le bac. Et que vous avez travaillé dans un marché, Angèle Ferreux-Magde, qui a été très marquant.
C'est vrai. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir partir passer mon bac à San Francisco. Et la Californie, c'est donc vraiment le berceau de la cuisine saine, healthy, clean, vegan, locavore. Tout ce qui était à l'époque pas du tout présent en France. Ou très peu, ou dans des milieux très, très spécifiques.
Ou pas glamour.
Pas glamour du tout. C'était des gens qui avaient des poils sous les bras, qui sentaient le patchouli. On avait l'impression que c'est pas cool, quoi. Et là-bas, en fait, donc je travaillais le week-end au Ferry Building Market, qui est le marché des producteurs de San Francisco. Déjà, on triait nos poubelles, mais pour de vrai, on triait vraiment nos poubelles. Donc, il y avait compost, papier, plastique, enfin des trucs, c'était aberrant pour moi, parisienne. Et en plus, dans ce marché, les gens étaient beaux, les gens étaient en bonne santé, les gens étaient heureux. Enfin, c'était hyper glamour, en fait. Et tout d'un coup, sur les étals, il y avait des graines germées de toutes les couleurs, des carottes multicolores, des gens qui s'embrassaient, qui étaient heureux de se voir. Enfin, c'était une sorte de paradis un peu idéal. Donc, c'était vraiment le berceau de ce mouvement-là. J'ai adhéré, évidemment, et puis j'ai adoré le fait qu'on puisse avoir un lien fort avec la nature et le revendiquer, et pourtant être complètement inclus
dans la modernité.
Dans la modernité, exactement, c'est ça, que ça pouvait être...
Que ça n'est en aucun cas une punition.
Exactement.
Vous revenez en France, vous commencez des études de médecine, que vous arrêtez, et puis là, il y a quand même un déclic qui se passe.
Bah, j'ai découvert la naturopathie. J'avais déjà, en fait, même avant San Francisco, grâce à un voyage en Inde, connu l'Ayurveda, la médecine ayurvédique. Donc ça m'avait beaucoup, beaucoup interloqué, en fait, ce principe d'art de vivre, qui est donc, on dit médecine, c'est vraiment de la prévention, en fait.
C'est ne pas dissocier le corps, l'esprit, la nourriture.
Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'holisme, la vision holistique de l'humain, de la santé. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup parlé parce que, au fond de moi, en fait, j'ai toujours eu l'impression qu'en effet, notre état émotionnel, notre relation aux autres avait un impact sur... Et je me souviens qu'adolescente, dès que je me disputais avec ma mère, je mangeais un gâteau immédiatement, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand j'ai découvert la naturopathie, qui est un petit peu notre méthode préventive ancienne à nous, j'ai complètement...
plongé.
J'ai plongé. J'ai vu enfin des discours des gens qui parlaient exactement comme ce que j'ai toujours ressenti sans jamais l'avouer.
Mais alors, il semblerait que vous soyez aussi passionnée de biologie. Et que vous n'avez pas adhéré à la naturopathie en repoussant tout ce qui est scientifique pour autant.
Mais alors pour moi, c'était très très important. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que je suis pas venue à la naturopathie pour rien. Parce que à San Francisco, en fait, on parlait du gluten-free, du vegan, du lactose-free et tout ça. Et en fait, pour moi, ça voulait vraiment rien dire. Pourquoi suivre des mouvements quand on les comprend pas? Donc j'avais besoin avant tout de comprendre. Si je parlais de choses, si je le revendiquais, j'avais besoin de savoir ce qui se passait.
La médecine ayurvédique, une médecine essentiellement pratiquée en Inde et au Sri Lanka, ayus signifiant vie et Veda, connaissance. L'ayurveda, c'est donc la science de la vie ou de la longévité, et ceux qui la maîtrisent sont appelés les yogis.
Selon l'Ayurveda, l'alimentation en général est composée par les trois ingrédients principaux, céréales. Le deuxième groupe, c'est le groupe des légumineuses.
Et le troisième ingrédient, ce sont les légumes, bien sûr.
Quand on mange l'alimentation qui convient à soi-même, la première chose, c'est la prévention de la santé. Deuxième chose, que ça augmente notre propre immunité. Troisième chose, que ça permet de ne pas avoir les toxines dans le corps.
J'opte pour l'alimentation ayurvédique depuis à peu près un an et je vois une différence au niveau de ma santé. Je suis quelqu'un qui a des allergies, donc j'en ai de moins en moins.
Au menu, l'un des plats les plus connus en Inde, le khichdi.
Voilà, on va préparer notre plat ayurvédique à base de riz, lentilles corail et les légumes.
En Ayurveda, pas de produits transformés. On mise uniquement sur des aliments nature, bruts et de saison. Cette combinaison d'ingrédients va permettre une digestion parfaite, appelée feu digestif en Ayurveda.
Voilà, le plat est prêt. Vous êtes invité pour manger.
Vous revenez en France et en 2013, vous lancez la guinguette d'Angèle. Alors, d'abord le nom, moi je me souviens de la première fois que j'en ai entendu parler, c'était tout minu, c'était une espèce de petit comptoir rikiki qui devait faire les 82 cm de large à peu près.
3 mètres carrés, enfin 2,82.
Voilà, et ça avait fait beaucoup de bruit lors du lancement. Pourquoi vous êtes lancé comme ça en lançant une marque et en ouvrant un lieu?
Quand j'ai commencé à devenir naturopathe, j'ai animé des stages de détox et de jeûne avec une autre naturopathe qui était déjà bien installée. Donc moi, j'étais ses petites mains. En fait, je faisais la cuisine avec tous ces concepts. Et donc, les personnes qui venaient, notamment, enfin surtout des femmes, surtout des actrices, des mannequins, avaient envie en fait de manger sainement et d'avoir ça chez elles. Donc complètement par hasard, je suis devenue cuisinière à domicile. En fait, j'ai commencé à remplir les frigos, à faire des dîners pour mes stars comme France Gall à l'époque, dont j'étais fan, je suis toujours. Et donc j'ai commencé à faire la cuisine chez les gens comme ça, mais vraiment parce que j'adorais la cuisine, mais je n'avais aucune technique, enfin toujours pas d'ailleurs. Et je me suis vite rendu compte que en fait peu à peu, le bouche à oreille a fonctionné très très vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui proposaient ce genre de choses à l'époque à Paris. Donc, j'ai commencé à être invitée à faire la cuisine pour les journées presse, pour les défilés, pour les backstage, etc. Donc, c'était le rêve. Je voyais, enfin, c'était les paillettes et tout ça, mais j'étais pas dans le réel. Et j'ai très vite eu envie que tout le monde puisse avoir accès à cette cuisine, de démocratiser un peu cette cuisine élitiste. Donc, j'ai trouvé ce petit lieu, en fait, très bien placé, puisqu'il est dans le premier arrondissement, donc autour de tous les clients pour lesquels je travaillais déjà dans la mode. Donc, je me disais, au pire, bah, ce sera eux.
Ils viendront, peut-être.
Ils viendront. Mais donc, j'étais dans ma petite échoppe, je cuisinais le matin, j'allais vendre le midi, et j'adaptais à chaque personne. Donc, je me souviens que j'avais plein de petits pots avec de la spiruline, du maca, des herbes, etc. Et quand les gens me disaient, j'ai mal au rein, j'ai mal au truc, j'étais, ah, mais alors il faut rajouter ci, ça. Et en fait, le but était vraiment déjà de démocratiser ça. Donc, au début, j'avais que des nanas, que des filles dans la mode et tout. Et peu à peu, j'ai eu des grands-mères, des mères de famille, des sportifs, des hommes. Donc, et aujourd'hui, en fait, la parité est complètement...
Oui, la clientèle est devenue totalement mixte, équilibrée.
Totalement mixte, il y a tous les âges.
À l'image de la société.
Exactement. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire.
Donc, petit à petit, la clientèle évolue. D'autres lieux vont voir le jour.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, la guinguette d'Angèle se développe de quelle manière ?
Alors, c'est vraiment une bonne question que je me suis beaucoup posée en ce moment, surtout pendant le confinement, etc. Cette période qui a été un peu de pause pour nous, les restaurateurs, et quand on a pu de réflexion, en fait, et d'essayer de faire mieux, comment évoluer, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais jusqu'à 4 guinguettes à un moment, et je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout le modèle que je voulais faire, de grandir les lieux, parce que plus je grandissais, moins j'avais la main sur la qualité, sur la façon. Et pour moi, la façon dont on sert les gens, la façon dont le plat va être mangé, etc. C'est tellement important parce que tout le travail en amont peut être complètement gâché par une mauvaise expérience. Donc, en fait, j'ai réduit. Maintenant, il y en a 2. Et c'est autre part que je préfère évoluer. Donc, dans les livres, évidemment, parce que pour moi, c'est une super façon de transmettre aux gens qui vivent pas à Paris, en plus, cette cuisine-là. Et par aussi les masterclass. Donc, je fais sur Internet des petits cours pour... Là, on en a enregistré un sur les clés de l'alimentation saine. Donc, on va parler je vais jusqu'à faire les courses avec les gens en leur expliquant comment reconnaître sur un marché les bons produits, dans les magasins, quel magasin choisir, quel produit choisir. Enfin, tout ce que j'ai appris, tout ce qui me plaît beaucoup et que j'aimerais transmettre.
Tout à l'heure, vous nous avez dit, Angèle, que vous alliez vous agrandir ici, prendre 3 étages supplémentaires dans les bâtiments. Qu'est-ce qui va s'y passer ?
Alors, il va s'y passer déjà le fait de nous réunir, parce que là, on est certes au même lieu de la rue Daguerre, mais on est un petit peu partout. Et j'ai remarqué que c'était hyper important que les cuisines soient pas séparées du reste de l'équipe. Parce qu'en fait, sinon, très très vite, il y a une sorte de conflit, on a l'impression d'être incompris. Donc là, il y a de la discussion tout le temps. Par exemple, au bureau, les filles n'envoient jamais les feuilles de route. Elles descendent et elles discutent. Est-ce que tu es d'accord
humain.
Le lien humain. En fait, pour moi, c'est crucial.
Il nourrit autant que l'alimentation.
Ah bah là, Daniel, là, je crois que vous venez de dire quelque chose qui est exactement ce qui a le plus d'importance pour moi. Parce qu'en fait, c'est presque une excuse pour moi, la cuisine. C'est presque anecdotique parce que c'est tout le reste qui nourrit. C'est quand on mange avec des gens, c'est une expérience. On crée du souvenir, du lien. On nourrit pas que nos cellules. On nourrit du beau, des discussions, des gens avec qui on s'entoure. Et ça, c'est la nourriture humaine. Pour moi, c'est on dirait que je suis un ogre. C'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est ce qui nous reste en fait.
Vous nous disiez que votre enfance avait été assez originale et assez belle. Est-ce que c'était une enfance où les saveurs étaient importantes ?
Mais les saveurs étaient très importantes, mais elles étaient très brutes, en fait. Parce que on avait le potager, le verger, les animaux, la basse-cour, etc. Donc en fait, chaque produit était délicieux comme il était en fait. Il sortait à la bonne saison, quand il était à la quintessence de son goût, de ses vitamines, de ses bienfaits, enfin de tout ça. Les animaux particulièrement, et ça je pense que c'est ce qui m'a aussi influencée dans cette cuisine, c'est que les animaux, on les connaissait.
C'était ils avaient une jolie vie.
Ouais, c'est ça. Je connaissais le prix des choses en fait, enfin le prix réel de la vie. Et donc ça ne m'empêche pas de manger de la viande aujourd'hui, mais par contre...
En conscience.
En conscience, exactement. Et c'est vrai que quand on achète de la viande sous un paquet, etc., et qu'on a l'impression que c'est juste de la bouffe ou qu'on se fait livrer...
Ça devient un objet.
Ça devient un objet, exactement. En regardant une série de son téléphone, et qu'en fait, il y a une distance énorme qui se crée entre ce qu'on met dans notre corps et nous. Et donc ça, je pense que pour moi, ça a été vraiment très, très important. Aujourd'hui, je mange pas, même si, comme je vous disais, quand je suis invitée chez les gens, je suis pas chiante.
Oui, vous ne demandez pas la fiche technique
non,
de chaque recette.
Non, pas du tout. Mais par contre, pour moi et ma famille, je n'investis, je ne mets de l'argent que dans, parce que c'est politique, en fait. Enfin, on le sait, on l'entend souvent maintenant que manger, c'est voter 3 fois par jour. Et donc, on décide vraiment de où on met notre argent et à qui on le donne. Et ça, c'est super important. Ça vient de nous, en fait. Ça vient de nous, les consommateurs, tout ce changement. Donc, il faut qu'on prenne conscience.
Pensez-vous que les assiettes changeront le monde ou pas ?
Je pense qu'il faut commencer par la tête, mais évidemment que les assiettes peuvent changer le monde, évidemment. C'est très difficile notre période parce qu'on a l'impression que ça peut être un retour en arrière, qu'on peut être contre l'évolution, etc. En fait, ça n'a rien à voir, c'est une urgence. En fait, on partage la même planète, on est limité, on est tous très très unis, donc peu importe le parti politique pour lequel on vote, la religion, la couleur, enfin, en fait, on respire tous le même air, on a tous la même mer, on a l'eau, je veux dire, on a tous la même terre, donc en fait, là, on peut pas ignorer cette urgence. Donc évidemment que ça passe par les assiettes, on est bientôt, je sais plus combien de milliards à nourrir.
7.
Voilà, ouais, c'est ça. Donc, oui, si on fait tous un
tout petit peu gaffe. Ça fait du monde dans un petit bateau. Ouais.
En 2050, il y aura 10 milliards de personnes qui vivront sur Terre. Et avec cette croissance de la population, si on souhaite limiter l'impact environnemental de notre modèle alimentaire et donc le réchauffement climatique, il va falloir adopter le plus rapidement possible des régimes alimentaires qui sont plus durables.
L'alimentation est responsable d'un pourcentage très important des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est parce que jusqu'à ce que les aliments arrivent à l'assiette du consommateur, ils passent par beaucoup d'étapes, comme c'est la culture, la production, la transformation, l'emballage, et bien sûr les transports.
Autre solution pour limiter l'impact de son alimentation sur la planète, lutter contre le gaspillage, car chaque année, 1,3 milliard de tonnes de nourriture est perdue ou jetée.
Elle s'attable.
Petite question, Angèle. Beaucoup de personnes ont l'impression que la nourriture végétale est par essence relativement triste. Ceux qui ont eu la chance de goûter à la guinguette d'Angèle savent que ça n'est pas forcément le cas. Comment est-ce que vous définiriez la cuisine végétale et votre cuisine végétale ?
En fait, c'est un nouvel univers, c'est un nouvel alphabet. Moi, j'aime bien voir les choses du bon côté. C'est vrai que quand on fait revenir un steak et qu'on le sert avec une salade et du riz, en fait, c'est plutôt ça qui est assez connu, quoi. Mais quand on a un choix énorme de légumes, d'huile crue, noisettes, chanvre, cameline, à mettre dessus, d'herbes aromatiques, tout ce qu'on a dans le jardin en ce moment ou sur notre balcon, de graines, donc les graines de sésame, de tournesol, de courge, de graines germées, n'en parlons pas. En fait, tout d'un coup, c'est un arc-en-ciel, on a une quantité gigantesque de choix. Donc, je comprends très bien que ça puisse paraître, on a l'impression parfois que c'est légumes vapeur, riz complet, mais en fait, c'est énorme, c'est tellement plus.
D'où viennent vos sources d'inspiration ?
Elles viennent vraiment des produits du marché, des produits du jour, de personnes comme Sarah Miska, que vous avez interviewée dans ce podcast, qui est à la plantation à Paris. Donc, en fait, c'est eux qui nous donnent, c'est les producteurs qui nous donnent notre menu. Aujourd'hui, on a des betteraves Chioggia, ce sera un carpaccio de betteraves Chioggia.
C'est très très bon la betterave Chioggia. Ouais. Vous avez eu la chance de développer une série de documentaires dans lesquels vous êtes intéressé, si ma mémoire est bonne, aux zones bleues, qui sont les zones dans le monde où il y a le plus de personnes très âgées en très bonne santé. Racontez-nous un petit peu cette expérience, Angèle.
Alors ça, c'était une chance incroyable. J'ai fait, en fait, avec un médecin généraliste, le tour du monde dans ces zones bleues. Donc ces zones, comme vous dites très bien, d'extrême longévité. Donc où les gens vivent très longtemps et en très bonne santé, parce qu'évidemment, c'est pas de la survie. Et donc, on a pu voir un peu les piliers de la longévité et de la santé. Et c'était vraiment, enfin, une expérience déjà humaine exceptionnelle. Et puis aussi, toutes les informations qu'on peut ramener chez vous, donc chez nous, parce que je suis pas du tout un exemple, mais le fait de manger de façon monotone, de manger peu, de toujours avoir un petit peu faim, en fait, ce sont très souvent des gens qui ont peu d'argent, qui vivent très longtemps et en très bonne santé.
Des gens qui marchent, qui ont une activité physique.
Exactement. Ils n'ont pas de voiture et ils n'ont pas de transport en commun. Ce sont des zones très reclus, donc à l'abri de la mondialisation, des pesticides, de tout ça. Et donc, en fait, ils ont souvent leur potager ou alors ce sont des bergers. Donc, ils ont une activité physique jusqu'à très, très tard. Il y a aussi un autre pilier de cette longévité, parce qu'en fait, il y a aussi évidemment la génétique, mais c'est très peu finalement dans l'équation.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour tous.
C'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on est acteur de notre santé.
Ces zones bleues se situent où?
Alors, il y en a plusieurs. Il y en a une à Okinawa, qui est assez connue au Japon, donc cette petite île.
Au sud.
Exactement. Il y en a une à Ikaria, en Grèce. C'est souvent des îles, en fait. Ce sont souvent des endroits isolés. Il y en a aussi une à Séoulo, en Sardaigne, en Italie. Il y en a une au Costa Rica et une en Équateur. Et une en Californie, dans laquelle on n'est pas allé parce que c'est des adventistes, donc c'est religieux. Et d'ailleurs, elle s'appelle les zones bleues, c'est assez rigolo, parce que le scientifique Gianni Pass, qui est italien et qui a découvert ces zones, dès qu'une personne vivait au-dessus de 100 ans en bonne santé, il mettait un petit point sur la carte. Ouais, son stylo était bleu. Donc en fait, ça a fait des zones bleues, quoi. Ça n'a rien à voir avec...
En différents points du monde, des scientifiques de renom ont repéré des lieux surprenants appelés zones bleues, où vivent un nombre élevé de nonagénaires et de centenaires en excellente santé.
C'est un trésor, vraiment, parce qu'on a dans cet échantillon-là la possibilité vraiment de trouver les secrets de la longévité.
Angèle Ferremague, chef de cuisine et naturopathe, spécialiste de l'alimentation bien-être.
Qu'est-ce que c'est ça?
Bah de la couenne de porc.
Ah bon?
Et...
Vincent Valinduc, médecin généraliste, passionné par ce qui permet de rester longtemps en bonne santé.
Finalement, leur défense immunitaire à la population de centenaires est bien plus efficace et plus importante que dans le reste de la population.
C'est quand même fou de constater ça aujourd'hui, quoi.
Tous les deux ont décidé de mener l'enquête dans ces endroits si particuliers pour tenter de percer les secrets de la longévité.
Qu'est-ce que vous avez ramené de cette expérience, Angèle Ferremague, et qu'est-ce que vous mettez en œuvre au quotidien du côté de l'alimentation de cette expérience?
Il y en a une qui ne concerne pas directement l'alimentation, mais comme on en parle depuis tout à l'heure, qui est quand même très importante pour moi, c'est le lien social, c'est l'importance des rapports humains. Alors, il y a un truc que j'ai, depuis cette expérience, que je mets beaucoup plus en œuvre, ce sont les légumineuses, mine de rien. Donc, les lentilles, les haricots, les pois chiches, etc., qui ont un peu mauvaise réputation.
On peut dire ça.
Mais qui sont en fait excellents pour la santé, qu'on retrouve dans toutes les zones bleues et qui font partie vraiment de la base des aliments sains. Et qu'en plus, qui coûtent vraiment pas cher, qu'on a chez nous en France en quantité. Avec
Produites sur place.
On en a plein, entre les pois cassés, les lentilles du dôme, les pois chiches, etc. Et puis, donc il y a ça. Il y a aussi le fait de ne pas trop mélanger, d'éviter le mélangisme. Ça peut être aussi intéressant pour notre quotidien. Quand on mange un petit déj anglais, un déjeuner italien et un dîner japonais, en fait, ça n'est pas tout à fait en adéquation avec notre biotope. Mmh. Et ça, c'est assez intéressant qu'en fait,
on est fait pour manger des choses relativement classiques et régulières.
Exactement. Mmh. Et de notre terroir aussi. Mmh. Donc, quand on vit dans un endroit, la nature nous apporte ce dont on a besoin quand on en a besoin.
Et puis, on a sans doute un petit zoo de bactéries adapté au local aussi.
Exactement. Notre flore intestinale est complètement adaptée à notre région. Et c'est pour ça que les Normands digèrent beaucoup mieux les produits laitiers que les personnes du Sud, etc. Mmh. Donc, en fait, ça, idéalement, consommer des produits de notre région, de nos parents, de nos grands-parents, etc., c'est déjà être en adéquation avec notre biotope. Parce que notre corps sait faire, en fait. Mmh. Ça fait des générations qui se préparent.
Ce podcast, Elle s'attape, s'intéresse aux femmes qui changent le monde à travers l'alimentation. Pensez-vous que le fait d'être femme donne une vision particulière du monde et pensez-vous que les femmes vont changer le monde ?
Mais j'en suis sûre, elles le font déjà depuis longtemps, mais particulièrement dans ces métiers de la cuisine. En fait, c'est rigolo comme ces tâches qui sont assimilées aux femmes, comme la couture, la cuisine, la coiffure. Dès lors que ça devient prestigieux, souvent ce sont des hommes qui prennent le lead et qui deviennent. Mais en fait, évidemment que, enfin, on nourrit les hommes depuis très longtemps. On garde les graines dans beaucoup de civilisations, etc. Et évidemment que ça, les femmes, c'est aussi les mères, c'est aussi les tantes, les grand-mères. Enfin, on a tellement de qualités, évidemment qu'on change le monde. On s'est parlé, on s'est écouté, on s'est transmettre.
Merci beaucoup, Angèle Ferrumac, pour
Merci
ce moment.
Daniel.
Vous nous avez permis de rêver, vous nous avez ouvert de nouvelles voies sur le végétal. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode du podcast Elle s'attable. S'il vous a fait plaisir, s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.